sur Via 95. C'est le parc en 30 minutes. L'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Le Parc en 30 minutes, présentée en collaboration avec la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour. Et je salue d'ailleurs son président directeur général, Donald Olivier. Bonjour Donald.
Bonjour Marc.
Alors, bon week-end.
Oui. Oh oui, très bon, très bon. J'espère que c'était la même chose pour toi.
Oui, on est en forme pour les 30 prochaines minutes.
Yes.
Pour informer les gens. D'ailleurs, je rappelle qu'en deuxième partie d'émission, Donald se fera un plaisir de répondre à vos questions par rapport à tout ce qui se passe dans le parc industriel de Bécancour. Et pour transmettre vos questions, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, et de cliquer sur « Poser vos questions ». Ou on peut le faire par texto au 819-519-9050, 819-519-9050. Mais avant d'y aller avec le sujet du jour, on aime bien commencer l'émission avec un retour sur l'actualité. Puis je voulais d'abord t'amener, Donald, sur cette délégation de la vallée de la transition énergétique qui comprend entre autres Bécancour, Trois-Rivières, Shawinigan, qui est assez houle présentement et dont la mairesse de Bécancour, Lucie Allard, est là. Elle va pouvoir y rencontrer, ce que j'ai compris, les partenaires sud-coréens bien implantés, dans le parc POSCO et COPRO. Je voulais savoir, premièrement, pourquoi ne pas y être allé? Est-ce que vous avez été invité?
Oui, c'est la vallée de la transition d'énergie qui organise ça. Donc, j'ai vu l'activité début septembre. J'ai été approché pour voir l'intérêt d'y participer. Évidemment, à 3-4 semaines d'avance, point de vue horaire, c'est difficile. Il y a beaucoup d'engagement déjà. Mm-hmm. Et puis, c'était axé vers l'innovation. Donc, c'était vraiment axé innovation. Il y a des belles rencontres à y avoir. C'était beaucoup aussi des liens entre municipalités. Évidemment, je pense que c'est toujours pertinent ces missions-là. Les résultats sont plus à moyen long terme qu'à court terme. Donc, dans ce cas-ci, on a choisi de passer, mais pas parce que c'est pas d'intérêt, c'est juste question d'agenda, mais aussi c'est axé innovation. La vallée est là pour ça. À chacun son rôle. Fait que moi, je les ai laissés aller là-dessus.
Et tu ne manques pas d'ouvrage ici?
Non. les semaines sont bien remplies, puis c'est quand même exigeant ces voyages-là. Hein?
Exactement.
Juste y aller et revenir, le voyage en avion. On arrive là, nouveau milieu, dans une langue, l'anglais, la langue un peu sur laquelle tout le monde s'arrabat, mais c'est quand même assez exigeant ces trucs-là.
Mais qu'est-ce que ça te dit, ce genre de mission d'affaires-là, sur la place de Bécancour au plan international? C'est quand même intéressant, sur la place du parc de Bécancour aussi, de voir que maintenant, Bécancour, on se déplace comme ça, même à Séoul, puis bon, on sait à quel point le parc attire, et d'ailleurs, ça sera le sujet d'aujourd'hui, attire les multinationales de l'extérieur. Comment une mission d'affaires comme ça, tu l'aperçois quand même?
Bien, assurément, au-delà de Bécancour, Trois-Rivières, Shawinigan, les trois ensemble qui sont partenaires dans la vallée de la transition énergétique, c'est sûr, pour moi, c'est un signe clair que la crédibilité, elle est là, puis elle s'établit, puis elle évolue. Donc, pour ça, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est assez surprenant en 2 ans le gain de crédibilité qu'on a eu à l'échelle internationale.
Toi-même, la semaine dernière, tu as été occupé pas mal le 1er octobre dernier. Le journal Les Affaires organisait une conférence sur la filière batterie à Montréal avec plusieurs invités, dont toi-même. Comment as-tu aimé ton expérience là-bas?
Bien, ça a été bien. C'était vraiment une belle opportunité. Le journal Les Affaires organisait une journée filière batterie. C'était la première. C'était à Montréal et puis il y avait différents panels et tout ça, mais j'ai eu la chance d'avoir un 30 minutes pour parler de Bécancour. Et puis on a des projets concrets, donc j'ai tenté d'avoir une présentation les deux pieds grandés sur terre pour présenter ce qui arrivait. Et puis les commentaires ont été bons, c'est de mettre en valeur ce qui existe déjà. On sait ce que c'est pousser des projets, ça demande beaucoup d'énergie, mais on a 5 projets actifs et puis c'est ce que je t'allais mettre en valeur. Et les gens qui ne passent pas par Bécancour, ce que je me rends compte, ne sont pas conscients de tout ce qui est arrivé. C'est pas juste des articles, ce n'est plus des articles d'un journal, c'est du béton qui se coule à tous les jours. Mm-hmm. Et les gens qui ne passent pas ici ne réalisent pas à quel point c'est avancé. T'sais, on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais il y a déjà des mises en service dès 2025 qui sont prévues.
Tu as même fait une tournée médiatique assez intéressante aussi à Montréal. Donc, tu as pu expliquer dans les médias avec les Mario Dumont de ce monde, Gérald Filion et compagnie, donc Philippe Quentin. Tu as pu expliquer vraiment ce qui se passait à Bécancourt, même au niveau médiatique.
Ben oui, comme j'étais de passage à Montréal, on a comme juste lancé l'invitation si certains médias voulaient entendre parler de Fière Batterie à Bécancourt. Et puis Mario Dumont a répondu, Philippe Quentin aussi, puis Gérald Filion. Donc, je pensais pas... faire tout ça, une chance que je m'étais amené du linge un peu plus propre dans ma valise. Parce qu'en partant le lundi matin pour Montréal, je ne savais pas que j'avais tout ça là, devant moi. Là, mais ça a été une belle opportunité. Puis c'est des questions... ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est des questions que je me fais poser à tous les jours, à toutes les semaines. Puis c'est des questions que le vrai monde se pose. Fait que moi, j'ai apprécié les questions, les échanges qu'on a eus. Évidemment, on essaie de me rabattre sur notre vol souvent. Mais notre vote, c'est notre vote, et puis Bécancourt fait son propre chemin.
Mais ce qui ressort, en terminant sur ce sujet-là, ce qui ressort de cette conférence à laquelle tu as assisté, tu as même participé comme conférencier, est-ce que tu ressentais sur le parquet de l'optimisme, de l'inquiétude par rapport à la filière batterie?
Moi, je pense que c'est un peu partagé, mais clairement, clairement il y a un désir. Tout le monde trouve que c'est un créneau porteur, et puis... tout le monde se rallie que la transition énergétique, elle est bel et bien commencée, elle est bel et bien là. La question que personne ne peut répondre, c'est sur quel horizon de temps elle va se dérouler, cette transition énergétique-là. Donc, je pense que tout le monde est confiant qu'on est sur la bonne voie. Après ça, la vitesse et jusqu'où on pourra aller dans ce créneau-là, on s'en reparlera dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, puis on se dira « Oh, je pensais pas qu'on allait aller si loin » ou « telle chose est arrivée, a pu changer les choses », mais c'est sûr que je pense que tout le monde trouve que c'est prometteur.
En tout cas, en attendant, il y a quand même 5 grands projets en construction actuellement sur le site du parc industriel, puis c'est justement le sujet de notre émission. On veut vraiment consacrer cette émission-là sur ces 5 grands projets. Je le disais plus tôt sur les ondes ce matin de la radio, on aurait pu faire un quiz, demander aux gens... selon vous, quels sont ces 5 grands projets-là? Il y en a qui sont méconnus même dans ces 5 projets-là. Vous allez le découvrir tantôt. Mais donc, puis en passant, moi-même, j'ai fait le tour du parc récemment. J'ai été impressionné de voir l'évolution des projets. Ça faisait un petit bout, je n'étais pas allé. Puis je remercie d'ailleurs votre conseillère en relation avec le milieu, Marie-Noëlle Bourque, qui m'a gentiment fait visiter le tout. Une aide précieuse pour cette émission en passant. Mais donc, puis en passant, en parlant de visite, j'aimerais ça quand même souligner aux gens à la maison qu'il est encore possible pour les gens de visiter le parc industriel en trolley d'ici la fin octobre, chaque dimanche de 10h à midi. C'est gratuit pour les résidents de Bécancourt, ça ne coûte que 10$ pour les non-résidents, donc c'est une belle invitation encore de visiter. Ça vaut la peine d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, c'est vraiment impressionnant. Tu sais, je pense qu'à chaque fois que tu en parles, Donald, tous ceux qui visitent pour la première fois sont quand même étonnés de ce qui se passe.
Oui, il faut le voir pour réaliser. Une photo ne rend pas justice. Des présentations virtuelles ne rendent pas justice à ce qui se passe réellement. Et puis, il y avait justement un autobus ce matin du secteur Bécancourt. Des résidents sont dans l'autobus et puis ça pose des questions. Ils ont la chance d'avoir Maurice Richard pour faire la tournée. Puis moi, je vais faire un crochet aussi. Il y a toujours des questions. Les gens ont de l'intérêt. Et puis, non seulement il faut parler de ce qui est là, mais moi, j'en suis fier de tout ce qui se passe dans le parc. Fait qu'il faut au contraire de cacher, il faut en parler puis il faut en être fier de ce qui arrive.
Donc, on va y aller avec nos 5 grands projets en construction puis peut-être y aller, si possible, par ordre chronologique, voir un petit peu où pêle-mêle, ça ne me dérange pas. Là, mais je sais que le premier projet, en tout cas, qui a été en construction, c'est Ultium Cam, je crois. Tu me corrigeras, Donald, qui s'appelait au départ GM Posco, je pense.
Oui, c'est ça qui fait que c'est un peu difficile pour les gens de suivre parce que tout ça va très vite. Et puis, les annonces viennent après le début des travaux. c'est rendu l'habitude. Les pelles mécaniques commencent et puis les gens se posent la question, qu'est-ce qui se passe là? Évidemment, les travailleurs savent pour qui ils travaillent, mais nous, on ne peut pas trop diffuser tant qu'eux autres n'en parlent pas.
Mais ça, c'est le plus gros bâtiment visible actuellement.
Oui, c'est ça. Fait que donc, si on y va avec Ultium Cam, c'est si on est sur la 30 en direction est, c'est-à-dire vers Gentilly, c'est le premier gros bâtiment du côté sud, donc à la droite des gens. C'est le premier projet qui a démarré. Donc, Ultium Cam, on appelle l'entreprise, son nom, c'est Ultium Cam Canada. C'est la propriété de POSCO, une entreprise sud-coréenne, et puis aussi propriété de General Motors. Donc, GM a 15 % et puis POSCO a 85 % de cette entreprise-là. Et puis, ce projet-là, C'est le premier qui a démarré. Donc, je me souviens encore, 19 décembre, on passait chez le notaire juste avant Noël, 19 décembre 2022. Mm-hmm. Et puis, dès le retour des fêtes de ce Noël-là, dès le retour, les travaux commençaient. Donc, pour ceux qui font de la construction un peu, ils savent que c'est pas nécessairement facile de commencer l'hiver, mais eux, ils voulaient vraiment aller de l'avant rapidement, puis se sont lancés dans des travaux d'hiver, malgré le climat du Québec. Et puis, donc, c'est vraiment un projet intéressant. C'est pour des matériaux actifs de cathode. Donc, c'est le pôle positif de la batterie. Ce projet-là avance quand même très bien. Puis, on risque d'avoir la chance de les avoir. On va se permettre d'en avoir des invités ici, parfois.
C'est intéressant,
Et puis, il n'y a rien comme les gens pour venir parler eux-mêmes. Fait que probablement qu'on aura la chance de les avoir dans les prochaines semaines. Mais ce projet-là va quand même bien, puis très bien même. Puis, on parle de mise en service dès 2025. Donc, ça veut dire que mise en service, ça veut dire qu'il y a des produits qui sortent de cette usine-là et qui vont aller dans une voiture à quelque part en Amérique du Nord. Donc, ça avance très, très bien, le dossier.
On parle de 250 emplois, je crois, dans ce
cas-là. Environ 250 emplois pour ce qu'ils appellent CAM 1, là, Cathode Active Material en anglais 1, donc la première usine qu'ils construisent ici. Fait que c'est quand même impressionnant. Puis si les gens se demandent pourquoi c'est si haut, ils pourront répondre beaucoup mieux que moi, mais il y a une notion de à chaque étage, il y a un raffinement, donc ils utilisent un peu la gravité aussi dans le procédé. Donc, projet bien intéressant.
Un bâtiment de 12 étages, je crois,
60-65 mètres, là, les gens qui passent vont voir, c'est pratiquement aussi haut que la ligne électrique d'Hydro-Québec à côté. J'ai pas mesuré, mais le réacteur de Gentilly 2 était le plus haut du parc, mais selon moi, celui-là, ce bâtiment-là doit quand même être près de la hauteur du réacteur.
Est-ce que les promoteurs sud-coréens arrivent avec leur recette gagnante ou ils doivent changer leur façon de faire ou c'est du copier-coller dans le fond? Ce qu'ils appliquent là-bas, ils le font ici?
C'est sûr que le procédé est le même, mais il faut quand même qu'ils se mettent aux normes en fonction des normes du Québec, de l'Amérique du Nord, là, les normes, peu importe, par rapport au bâtiment. Là, normes, il faut concevoir le bâtiment pour qu'il résiste aux tremblements de terre, aux trucs comme ça. Les spécifications du réseau électrique peuvent être différentes, mais en gros, le cœur du projet, c'est le même que ce qui se passe en Corée. Et puis, c'est vraiment important de savoir qu'ils sont déjà, ils ont déjà recruté beaucoup de personnel pour leur usine. Il y a même des gens de Bécancour ou des gens qui sont à l'emploi du Lithium CAM qui ont eu la chance d'aller faire un séjour en Corée au mois de juin, quatre semaines, un mélange d'appropriation culturelle puis d'appropriation technique. Donc, ça avance quand même bien.
Janvier 2023, il y a eu Nemaska Lithium qui a commencé à construire aussi, si je ne m'abuse.
Oui, donc le deuxième dossier qui a démarré, c'est Nemaska Lithium. Le deuxième bâtiment, quand on est toujours en direction est, on arrive de Trois-Rivières, on s'en va vers Gentilly. Le premier bâtiment, c'est celui du Lithium CAM. Le deuxième, que si des gens passaient cet été qui voyaient le mur ouvert, là, c'est parce qu'ils attendaient les équipements de grande dimension. Nemaska Lithium a commencé, lui, en mai 2023, puis ça avance quand même rondement, eux aussi. Ils ont leur projet d'usine à Bécancour, leur projet de mine à Wabushi, et puis ce qui va sortir de cette usine-là, c'est de l'hydroxyde de lithium, ce qui est requis dans les batteries lithium-ion, évidemment.
Mise en service 2026 dans leur cas, je pense.
Oui, 2026, c'est vraiment pas mal, 2025-2026, pas mal tout le monde qui vise cette date-là. Donc, Nemaska Lithium, c'est quand même... C'est un peu la propriété de chaque Québécois parce que Investissement Québec a 50% de participation dans Nemaska Lithium. Donc, Investissement Québec, c'est nous les Québécois. Là. Donc, c'est intéressant aussi de voir ce genre de formule-là.
Sans revenir sur la saga de l'emplacement, là, mais on sait que initialement ça devait aller ailleurs. Mais quand même, le fait que ça apparaît à Bécancour, Nemaska Lithium, il y a un avantage au niveau de l'écosystème de s'installer ici, j'imagine.
Oui, puis écoutez, moi, je n'étais pas dans le domaine à ce moment-là, mais je sais que le procédé est différent que ce qu'il avait prévu faire à Shawinigan. C'est ce qui fait qu'il y avait besoin d'un terrain comme celui qu'il y a à Bécancour. Fait que c'est sûr, d'avoir de l'hydroxyde de lithium. On dit souvent que la stratégie c'est du gouvernement du Québec, c'est de la mine à l'usine jusqu'au recyclage. Donc, eux autres, ils s'insèrent très bien là-dedans. Là.
Troisième projet dont on peut parler ce midi, EcoPro. Bon, ça aussi, on en a parlé peut-être pour les mauvaises raisons parce qu'il y a eu deux arrêts, je pense, de chantier, mais peut-être, rattaché davantage à Ford, cette histoire-là, peut-être nous démêler un petit peu le nom EcoPro, Ford, puis aussi où s'en est rendu ce projet-là.
Oui, donc dans le futur, moi je vais beaucoup parler d'EcoPro, mais encore là, il y a eu tellement de noms dans les médias, encore les gens parlent de Ford. À un moment donné, eux autres même avaient nommé leur projet Poplar. On voyait ça Poplar sur le bord de l'autoroute, mais là, c'est vraiment le nom EcoPro. Eux, c'est effectivement, ils ont eu deux pauses, une pause au mois de mai, une pause au mois d'août. L'idée de la pause, c'était de se repositionner sur le plan technique. On entend tous là, que peut-être que la vente de véhicules, ça va très bien au Québec, mais ailleurs, la progression est peut-être plus lente que ce qu'ils anticipaient. Il y a comme une recherche vers des véhicules un peu plus abordables, batteries plus abordables aussi. C'est un peu ce qui est comme trame de fond sur leur pause aussi.
Donc, fort intéressant. On a déjà 3 joueurs sur 5 d'identifiés. J'imagine que les deux autres, les gens se demandent qui sont-ils. C'est ce qu'on va savoir après la pause, mon cher Donald. Donc, on va y aller tout de suite avec la pause, mais aussi, avant d'aller en pause, ben, on invite les gens à nous écrire. Allez sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, et cliquez sur « Poser vos questions ». Et vous pouvez poser vos questions aussi par texto au 819-519-9050, 819-519-9050. Écrivez-nous.
De retour à l'émission Le Parc en 30 minutes. Avec Marc Rochette.
Alors, Donald, on poursuit notre tournée du parc virtuel en studio pour aller voir les grands chantiers. On parlait d'EcoPro, peut-être ajouter quelque chose avant de passer à la quatrième entreprise.
Oui, pour bien situer, c'est celui qui est en face de Lithium Cam, donc du côté nord de l'autoroute. C'est pour des matériaux actifs de cathode, eux autres aussi, là, pour le positif de la batterie. Et puis, juste pour rappeler aux gens, ou en tout cas sécuriser les gens, qu'il y a une semaine et demie, 2 semaines, ils ont vraiment déclaré qu'ils redémarraient leur projet à Bécancour, qu'ils croyaient vraiment au site de Bécancour et qu'ils étaient déterminés à le conclure, donc à mettre en service éventuellement cette usine-là.
Ça, c'est des bonnes nouvelles rassurantes.
Oui, c'est des bonnes nouvelles rassurantes.
Air Liquide, autre entreprise qui travaille dans le domaine, peux-tu nous en parler? C'est quoi leur projet?
Ouais. Air Liquide sont déjà dans le parc. Air Liquide, anciennement Hydrogénal, devenu Air Liquide, producteur d'hydrogène et de séparation d'air à leur usine actuelle. Mais là, ils construisent une nouvelle usine parce que les usines qu'on a nommées précédemment, Ultium Cam, Nemaska Lithium, EcoPro, ont besoin d'oxygène, d'azote, d'argon. Donc, au lieu de chacun se refaire une petite usine de séparation d'air sur leur site, Air Liquide en fait une plus grosse, de plus grande capacité et va fournir par des tuyaux sous terre ces 3 usines-là. C'est pas une entreprise qui est directement reliée à la filière batterie, mais elle est indirectement reliée à la filière batterie parce qu'elle va aider les autres entreprises à produire. C'est un bon exemple de synergie qu'il peut y avoir dans le parc parce qu'Air Liquide était déjà dans le parc. Il y a d'autres entreprises qui sont dans le parc qui pourraient s'insérer dans la chaîne d'approvisionnement des joueurs qui s'installent à Bécancour.
Alors, quand on parle de retombées concrètes, c'en est une, ça?
Oui, effectivement. C'est comme le fameux écosystème. C'est pas juste d'avoir une usine aux 200-300 km. C'est de tenter d'avoir un carrefour où est-ce que les gens peuvent réaliser leur projet de façon plus efficace et plus robuste.
C'est en construction, là, actuellement.
Oui, c'est l'usine qui est juste après la tour d'eau bleue. Entre le réservoir d'eau bleue au nord de l'autoroute et les bureaux de la Société du Parc, on voit, sont surtout au début, donc c'est surtout du bétonnage. On ne voit pas beaucoup le chantier, mais c'est du côté nord voisin de EcoPro.
Autre entreprise dont je ne connaissais pas l'existence, MRA, je crois. Est-ce que tu peux nous parler de cet autre projet-là?
Oui, Matériaux Avancés MRAE, c'est un dossier que la transaction immobilière a eu lieu en mars dernier. Les travaux ont commencé en avril. C'est une entreprise sud-coréenne aussi qui est déjà en affaire avec POSCO en Corée. Et puis eux, ce qu'ils font, c'est, je vais utiliser leur terme, là, micronisation des matériaux de batterie. En gros, ce que ça veut dire, microniser les matériaux de batterie, ça veut dire, si on avait un microscope, on verrait les dimensions puis les formes. C'est tenter d'avoir des dimensions uniformes et les formes uniformes aussi. Eux, ce qu'ils font, c'est un procédé mécanique, ce n'est pas un procédé chimique. Donc, c'est un projet plus modeste, je pense que c'est 75-80 millions, mais vraiment qui s'insère aussi dans la filière batterie, un autre beau succès. Lui, il est au bout de Jean-Demers, on le voit aussi sur le bord de l'autoroute, là, sur à l'extrémité de la rue Jean-Demers, juste adjacent à l'incubateur de la ville.
Donc, 5 beaux projets en construction présentement dans le parc industriel, et là, c'est sans compter ce qui risque de s'en venir éventuellement.
Oui,
là.
Effectivement, 2 projets matures, Nouveau Monde Graphite et Vallée, et puis comme je disais tout à l'heure, on va probablement se permettre mutuellement d'avoir des invités ici. On va certainement tendre la perche à ces gens-là pour qu'ils viennent en parler d'une façon un peu plus détaillée et puis aussi voir comment ils vivent ça, partir une nouvelle usine.
Oui, c'est ça, tout un défi quand même.
Ouais,
là.
Ouais.
On y va tout de suite avec les périodes, la période de questions du public, on peut dire, parce qu'on a reçu des questions du public, on en est très content. Donc, on va prendre les dernières minutes qui restent de l'émission pour répondre à ces questions-là et on invite les gens à participer en grand nombre. Une question qu'on a reçue du public de Mme Sylvie Houle qui dit ceci. J'habite dans le domaine Bergeron et il y a beaucoup de rues barrées comme celle pour accéder à l'autoroute. La circulation est beaucoup plus difficile que d'habitude. Combien de temps vont durer les travaux? Qu'est-ce que vous construisez? La ville ne nous a pas informés, déplore-t-elle.
OK. Donc, on peut parler de ça peut-être rapidement. Bon, évidemment, il y a une étude qui se fait sur l'autoroute 30, mais à court terme, ça prenait des actions pour tenter d'améliorer la situation. Et puis, avec la ville, on est allé au-devant des citoyens fin novembre l'année passée pour présenter un peu ce qui arrivait. La dame n'a peut-être pas pu assister à cette rencontre-là, mais j'étais là pour présenter ce qui arrivait, ce qu'on voulait faire comme projet. En gros, si je résume ça, c'est que il y a 2 dossiers, mais peu importe qui le fait, là, la question de la dame, là, c'est vraiment quand est-ce que ça va être fini.
Ouais, c'est ça.
Ben, décembre, ça devrait être pas mal fini, puis assurément, c'est inconfortable ce qui se passe, parce qu'il y a vraiment beaucoup de travaux. Donc, si j'essaie de résumer, nous, on construit une voie de service additionnelle du côté sud de l'autoroute. Donc, entre le boulevard Bécancour et Louis-Riel, qui va relier en fait les 2 lumières. Les travailleurs qui vont sortir de chez Nemaska Lithium et Lithium Cam pourront sortir par la gauche ou par la droite. Et l'idée, c'est de rendre ça plus fluide, de ne pas mettre tout le poids sur une intersection. Parce que si on met le poids juste sur une intersection, le trafic n'est pas fluide du tout. Et puis, on a déjà des problèmes de congestion, ils sont pires. Et la voie de service, c'est la Société du Parc qui l'a construit.
D'accord.
Et puis, elle est quand même assez avancée, mais les gens qui ont passé ont vu qu'elle n'était pas très large. Il faut la réélargir. Et puis, on fait ça dans les prochaines semaines. Et les 2 intersections, c'est le ministère des Transports qui travaille sur ça. Et dites-vous que les intersections, il y aura 2 voies dans chaque direction pour l'intersection sur l'autoroute 30. Et ça ne double pas l'autoroute 30, mais assurément, ça rend plus fluide cette intersection-là. Fait que l'idée, c'est de passer plus de volume de trafic pour le même temps de lumière à cette intersection-là. Fait que c'est quand même des travaux pas banals. Et puis, il y a aussi ce qui s'ajoute, le ponceau juste à l'est des 7 travaux-là, le ponceau du ministère des Transports qui doit être changé. Fait que donc, effectivement, c'est pas très confortable pour les usagers. La dame a raison. Fait que donc, l'automne va être un peu difficile en termes de travaux, mais l'idée, c'est d'avoir plus de fluidité en termes de trafic, bien que ça ne règle pas l'ensemble des problèmes.
Autre question de Nicolas Lisotte de Sainte-Gertrude. J'utilisais souvent la piste cyclable qui passait au sud de l'autoroute entre Bécancour et la route menant à Sainte-Gertrude. Elle n'est plus accessible depuis bientôt 2 ans à cause de la construction des usines. Est-ce que vous prévoyez en reconstruire une nouvelle?
Effectivement, elle n'est plus accessible depuis l'arrivée de la filière batterie. On a dû la fermer assez rapidement parce que les gens qui connaissaient cette piste-là ont très bien vu que c'était finalement la voie de service pour le nouveau développement. Donc, on n'avait comme pas trop de choix. On s'est rabattu sur un scénario imparfait, c'est-à-dire de rediriger le trafic par des rues dans le parc. Mais on s'entend que faire du vélo dans le parc versus une voie autonome en milieu naturel, c'est plus agréable. Puis la réponse à la question, c'est oui, on a prévu refaire une piste cyclable. Et puis, ce qui est prévu, c'est de faire une piste cyclable le plus possible en milieu naturel. Donc, la personne vient de Sainte-Gertrude, connaît quand même bien le milieu. On regarde pour l'instant des tracés sur le haut du talus, donc plus en milieu naturel. Et puis, ce qu'on a fait, on a déjà rencontré les propriétaires pour voir, parce qu'on avait 2 options. Donc là, il y a une option de tracé qui se dessine, puis on a prévu consulter des cyclistes dans les prochaines semaines. En octobre, on a des rencontres, mais assurément, les propriétaires, on sait, parce que certains propriétaires qui nous ont clairement dit, ben c'est pas compatible avec l'usage que je fais de mon terrain, donc je préférais vous passer ailleurs, puis c'est très correct, ils sont chez eux. Mais on a quand même des options parce que la Société du Parc a beaucoup de terrain, ça fait qu'on est capable de se rabattre sur un tracé intéressant. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une piste cyclable digne de ce nom. Donc, on a un budget pour faire ça et puis on va être capable de faire quelque chose de bien.
Donc, la piste cyclable, c'est un dossier qui est en cours, dans le sens...
Oui, et puis moi, j'aurais aimé qu'elle soit faite le plus tôt possible. Je tiens à ce qu'elle soit faite le plus tôt possible. La réalité, c'est qu'on doit faire des études. On va être en milieu agricole, milieu humide. Il faut faire des vérifications et tout ça. Réalistement, ce serait 2026, la construction. D'accord. Donc, le tracé serait défini d'ici janvier, février. L'année prochaine, on fait les études, on confirme le tracé et 2026, ça serait d'exécuter en tout ou en partie la piste cyclable.
Un des premiers utilisateurs, ce sera toi, je pense, parce que tu es un amateur de vélo.
J'espère en faire partie. Et puis, Mme Claudette Rowe, qui réside encore dans le parc, je lui dis on l'inaugurera ensemble, cette piste cyclable-là.
C'est excellent. On a parlé donc rapidement. Merci d'avoir répondu à ces deux questions du public et on encourage les gens à écrire. On a parlé rapidement donc des 5 chantiers en construction, centaines d'emplois qui se préparent. Donc, besoin de main-d'œuvre, il y aura des types d'emplois. On reviendra peut-être éventuellement sur les types d'emplois nécessaires, là, mais il y a des types d'emplois qui ont probablement été identifiés. Je ne sais pas s'il y en a 2-3 qui te viennent à l'esprit. Là,
mais c'est beaucoup des opérateurs qui ont besoin dans ces usines-là. Évidemment, tous les techniciens, ingénieurs, on a besoin, personnel de bureau, mais vraiment les opérateurs de procédés. Les usines de batterie, c'est beaucoup de la chimie. C'est ça aussi qu'il y a dans les usines du parc actuel, des procédés, puis c'est la chimie qui prédomine. Donc, c'est le type de main-d'œuvre qu'ils ont besoin. Beaucoup de corps de travail, 12 heures et tout ça. Fait que c'est le même type de profil un peu qu'on retrouve dans les autres usines.
Donc, on a vraiment eu une bonne émission, très bien remplie avec ces questions du public, mais aussi avec ces 5 grands chantiers en cours, très réels. Donc, allez voir ça. Profitez des dernières visites qui restent d'ici la fin octobre pour aller visiter le parc industriel. Puis, la semaine prochaine, journée de l'Action de grâce, nous, on sera en action, justement, pour parler du plan stratégique. Donc, ça, le plan stratégique, c'est sur les prochaines années, ça?
Oui, jusqu'en 2027-28. Et puis, le mot peut faire pompeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en gros, c'est où on va, quel objectif concret on se donne pour les prochaines années. Donc, je pense que ça va être intéressant d'en discuter.
Donc, il y a différentes déclinaisons, des orientations. Donc, on va prendre vraiment le temps la semaine prochaine, une émission complète pour parler de ce nouveau plan stratégique qui est encore tout chaud, tout sorti du four.
Fraîchement approuvé.
Fraîchement approuvé. Donc, c'est super. Alors, soyez les nôtres, chers auditeurs, même à l'Action de grâce, nous serons là le midi, de midi à midi 30 avec le parc en 30 minutes. Et aussi, on vous invite donc à nous écrire, à poser vos questions comme ces citoyens l'ont fait aujourd'hui en allant sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, et cliquez sur « Poser vos questions ». Ou sinon, on peut le faire par texto au 819-519-9050, 819-519-9050. Merci encore, Donald, de t'être prêté au jeu des questions aujourd'hui, de répondre au public. Et on se revoit lundi prochain. Bonne journée à tous.